Depuis toujours, l'univers connaît son lot de massacres et d'histoires sordides. Laissez-vous porter par une enquête à la fois. Venez découvrir des histoires inédites.
Bon ben, bonjour Eric.
Bonjour.
En passant, tu peux m'appeler Ellie.
Ah, ok.
La parenthèse. Fait que j'enlève mon montage. Salut. Salut. Fait que, en fait, le premier enregistrement qu'on fait actuellement, c'est simplement pour se présenter. C'est ça.
C'est ça, exactement. Donc, c'est à toi à commencer, à te présenter, non?
Oui, ben, je vais faire une petite parenthèse pour nos premiers auditeurs. On était censé enregistrer de mon côté avec un micro et le micro a sauté.
Capote.
première utilisation du micro, toute fière.
Il n'a même pas duré 24 heures ton micro.
Non, 14 secondes, parce qu'on a fait un pré-enregistrement pour tester. Ça a duré 14 secondes, c'était excellent. Et voilà. Alors, pour la qualité audio de mon côté, cette fois-ci, ce sera peut-être pas la meilleure, mais on s'est dit que, bon, on se présente, là, c'est pas si pire. Alors, voilà, on se permet.
Voilà.
Je me permets pas mauvais choix. Donc, voilà, on fait un balado concernant le crime. Il y en a déjà dans le domaine. Dis-moi, Eric, pour commencer, c'est quoi ton approche? Pourquoi tu fais ça?
Et ouais, ça va être quelque chose à résumer parce que ça remonte à 32 ans déjà. Mon Dieu, ça a commencé avec le cinéma. Moi, j'ai toujours été attiré par le crime, puis tout ce qui était judiciaire qui tournait autour de ça. Puis finalement, ben j'avais l'instinct, franchement, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu l'instinct d'aller au fond puis d'aller voir. Fait que quand j'ai commencé à aimer ça, je me contentais pas d'être un spectateur, il fallait que j'y aille voir au fond. Fait que c'est ça qui m'a fait commencer la recherche. Donc, dès 1990, j'étais dans les archives nationales avant même que ça s'appelle BANQ. À cette époque-là, pas d'Internet. Là, je vois vite parce que ça donne rien de résumer ça.
Moi, quand t'as dit... excuse-moi, je m'entends crier dans le micro. Je vais essayer d'ajuster. Moi, quand t'as dit dès 1990, je suis en train de me dire « Tabarouette, j'étais même pas encore née. »
Ouais, exact.
Finalement, j'étais pas née puis ça se passait déjà. Bon, moi, j'en embarque plus tard. Là, comme on dit, vaut mieux tard que jamais.
Et à cette époque-là, c'était par courrier régulier. Hein, fait que... Moi, j'ai commencé par les États-Unis. Je m'intéressais beaucoup à cette époque-là, à l'époque de la conquête de l'Ouest, donc tout ce qui était judiciaire pour le 19e siècle américain. Fait que j'ai des lettres, j'en ai écrit pendant au moins 5-6 ans, si c'est pas plus. Puis parallèlement à ça, ben je commençais aussi à regarder des archives d'ici, là, du Québec. Puis, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ben c'était plus facile ici, c'était plus abordable, c'était plus accessible parce que c'est proche, physiquement aussi, parce qu'il faut se déplacer pour aller consulter les archives. Fait que tranquillement, pas vite, ben je me suis dit, on va commencer à sortir un procès, un deuxième procès. Puis quand je dis procès, ben c'est le dossier judiciaire, là, c'est la matière, c'est le dossier fondamental. Et puis, finalement, je me rends compte qu'on n'a rien à envier aux Américains. Donc, voilà, petit à petit, ben... C'est ça. Plus on en lit, plus on en connaît. Plus on en connaît, plus on veut en savoir.
Personnellement, pour écouter des podcasts, je me rends compte qu'il y a beaucoup de podcasts qui se font tout le temps, qui ressortent tout le temps des articles des Américains, mais qui ont tout le temps l'impression, selon moi, que les Américains font des affaires complètement fuckées. Je dis pas que c'est pas vrai. Ils se font des affaires bizarres. C'est ça. Mais avec excuse-moi. Avec ce que tu m'as sorti comme certaines documentations et tout, certains cas, je me rends compte qu'effectivement, tu as raison, on n'a pas grand-chose à envier aux Américains. Je pense que peut-être on se penche moins sur ce qui se passe ici. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller faire le tour des archives nationales puis de lire des documents. Donc,
exact.
C'est sûr que les podcasts, je dis pas que c'est tous les podcasts qui font ça, là, loin de là, mais souvent ça va peut-être plus résumer des articles de presse ou aller chercher, tu sais, comme l'information qui a été comme plus
exact.
Déjà plus traitée, plus épurée, bref, mais moi, de ce que je comprends de comment tu fonctionnes, c'est vraiment tu vas chercher l'information brute à la source. Tu as les documents en main. Tes mains, ils touchent ce papier-là. Ils lisent ce qui est vraiment écrit noir sur blanc. Donc là, on peut pas se tromper. C'est ce qui a été dit.
Puis non seulement, des fois, tu as le papier du procès entre les mains, mais occasionnellement, parce que c'est difficile de mettre un pourcentage là-dessus, occasionnellement, tu te retrouves avec des objets aussi. J'ai eu des armes de crime entre les mains, des objets qui ont appartenu à des victimes. Si je pense à Blanche Garneau, entre autres, qui a été assassinée en 1920, quand ils ont retrouvé son corps, elle avait un mouchoir dans sa main, puis ce mouchoir-là, je l'ai eu moi aussi dans ma main 100 ans plus tard. Tu sais, quand tu connais comme une aventure comme ça dans les archives, là, je l'avoue, là, t'as des frissons, là. C'est quelque chose, là. On dirait que tu communiques un peu plus avec le passé. Tu sais, je suis pas quelqu'un de fantaisiste, mais quand même, tu sais, t'as l'impression de voyager un peu dans le temps, là, quelque part, là, quand tu tombes sur des objets comme ça, là. C'est assez impressionnant.
Puis, puisque tu abordes justement quelque chose de 1920, je crois que ce serait intéressant, là, moi tu me l'as appris récemment, là, mais je crois que ce serait intéressant que tu abordes justement l'aspect des archives qui datent de vraiment loin, là, celles qui prennent 100 ans, je sais pas trop comment bien l'exprimer, là. Je pense que tu comprends ce que je voulais. Quand tu veux avoir comme vraiment des dossiers là
De la façon que ça fonctionne, en général, on va essayer d'y aller dans l'ordre, OK? Quand il y a un crime de commis, bon, souvent, ça commence avec une scène de crime. Donc, qui dit scène de crime, souvent dit un cadavre, bon, ou plusieurs. Donc, ça commence avec ça. Donc, l'enquête policière commence tout de suite là. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'enquête de coroner. Parce que le coroner, à chaque fois qu'il y a une mort suspecte, que ce soit un meurtre, que ce soit un suicide ou autre, je me garde le « autre » au cas où, le coroner s'en mêle parce que lui, sa fonction, c'est de déterminer la cause du décès. Il n'y a pas à trouver le coupable, mais il faut qu'il trouve la cause du décès parce qu'il y a un pouvoir de recommandation et tout ça. Fait que, tu sais, si, mettons, je te donne un exemple, il y a 10 personnes qui meurent du cancer en 10 jours de suite dans la même région, il va commencer à se poser des questions. Il va dire, il y a peut-être une usine proche, là, qui émane, qui fait des émanations cancéreuses ou cancérigènes, pardon. C'est cet exemple-là. Sauf que, en partant, tout ce que la police ramasse dans son enquête, ça devient privé. Puis tout ce que le coroner amasse, ça devient public. Mais il faut que tu attendes qu'il dépose son rapport, évidemment. Là, donc ça, c'est accessible à tout le monde. Mais c'est juste la cause de décès. Sauf que dans certaines enquêtes, tu as quand même beaucoup d'informations. Là, je parle du côté des coroners. Du côté policier, ça, c'est différent. Et souvent, bon, les gens parlent de dossier de police et tout ça, mais de dossier de police, c'est tout ce que les enquêteurs amassent pendant leur enquête. Vraiment tout, là. Tu sais, s'ils vont interroger, je sais pas un exemple, puis finalement, ils ramassent certains éléments par rapport à toi, puis ils font une perquisition chez toi et tout ça, mais ils finissent par dire la piste d'Elisabeth, on l'abandonne parce que on est sûr que c'est pas elle, la coupable. Mais ça reste dans le dossier. Si quelqu'un, mettons qu'après 20 ans, OK, quelqu'un avait accès au dossier de police, puis là, ben, des fois, on a affaire à des enquêteurs en herbe, ou il y en a qui disent des enquêteurs ou fouilleurs, bref, il y en a pour tous les goûts. Mais à ce moment-là, ils vont dire, ah ben oui, mais peut-être qu'Elisabeth était coupable, puis là, on va retourner. Puis là, ben, après 20 ans, t'es encore vivante, toi, là, il y a des grosses chances. Fait que là, ils vont aller t'harceler, ils vont dire, fait que ça, c'est de la chasse aux sorcières. Ça, c'est pas sain pour une société. Alors, c'est pour ça, principalement, parce que la loi des archives aussi, là, qui est arrivée en 1983, a officialisé tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on met 100 ans pour être sûr que tout le monde qui était concerné, que tout le monde a eu le temps de faire leur deuil, que tout soit fait, puis qu'après 100 ans, si ça ressort publiquement, ben que ça dérange pas beaucoup, là, tu sais, c'est comme ça. Et on aura l'occasion d'en revenir, j'ai même même après 100 ans, des fois, ça dérange quand même. J'ai déjà eu l'expérience, là, pour une affaire de 1913 sur laquelle j'ai publié, et puis les gens n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé, donc des fois, tu crées des chocs quand même comme ça, là. Fait que grosso modo, c'est pour ça que les dossiers de police, c'est bloqué pour une centaine d'années.
Donc, en résumé, ce que tu expliques, c'est que le coroner, du moment qu'il a déposé son rapport, ça, les gens y ont accès parce que c'est public, mais du moment que ça concerne la police, pour éviter, comme tu as utilisé l'expression, la chasse aux sorcières, puis des intrusions là, dans la vie personnelle des gens, c'est gardé sous scellé pendant 100 ans. Puis quand le 100 ans a été échu, à ce moment-là, tout le monde a accès à la documentation. Mais il y a vraiment un moment de 100 ans que tout le monde doit attendre, personne n'a accès à ça au domaine exact. Public. C'est bien ça?
C'est en plein ça, oui. Et puis là, pour ce qui est des dossiers de la SQ, qu'on appelait à l'époque la Sûreté provinciale ou la Police provinciale, la fameuse PP qu'on disait dans le temps, là, c'était comme ça même dans les journaux puis dans le public. Ils ont commencé à les conserver, les dossiers, en 1920. Donc, c'est pour ça que depuis 2-3 ans, donc, j'ai commencé à les faire sortir, donc à les consulter. Puis, on aura l'occasion de faire des balados là-dessus. Tu vois que c'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, il y avait des attentes. Là. Moi, je m'attendais à avoir des dossiers complets. Puis c'était un peu naïf de ma part parce que là, on est en 1920. Donc, il n'y a pas beaucoup de documents, mais c'est souvent des causes qu'on connaît pas mais qui sont super intéressantes. Là. Fait que c'est ça. On aura l'occasion. On fera une balado juste là-dessus. Parce que là, j'ai fait sortir les trois années. Là. Fait qu'il y a assez de stock pour faire une balado complète là-dessus. Et après ça, évidemment, le dossier le plus intéressant puis le plus... qui nous permet de reconstituer le plus fidèlement les crimes, ben c'est le dossier judiciaire. Et dans le fond, c'est tout ce qui se passe entre l'accusation et le verdict. C'est tout ce qui est déposé là-dedans. Même, tu as les frais du greffier là-dedans, le shérif, tout ça, puis tu as les témoignages pendant le procès. Tu as vraiment tout. Fait que quand il y a eu procès, évidemment, parce que, comme on va le voir, on va l'expliquer aux gens, il y a des causes non résolues, par exemple, qu'il n'y a jamais eu de procès parce qu'ils n'ont jamais trouvé de suspect. Fait que... Là, dans ce temps-là, t'es pogné un peu pour de tourner vers d'autres documents. Fait que bien souvent, à ce moment-là, t'es plus limité sur les sources d'information. Mais quand tu as accès au dossier judiciaire, qu'il y a eu un procès, c'est pas mal le top.
J'ai peut-être une question qui va avoir l'air... je ne sais pas comment l'expliquer. Sans dire que c'est une question niaiseuse. Je vais avoir l'air très néophyte. Mais je me demandais, quand on parle de dossier de procès, est-ce que c'est le seul moment où est-ce qu'on aurait comme l'opportunité d'avoir de l'information concernant ce que la police détient de son côté sous scellé ou il n'y a vraiment aucun moyen...
Oui, c'est non, t'as raison, c'est pas du tout niaiseux ta question, mais vraiment pas. C'est que ce que la police ramasse dans son enquête comme élément de preuve et tout ça, si elle en ramasse suffisamment pour accuser quelqu'un, parce que là, il s'arrange après ça avec le procureur, si on a assez de preuves pour accuser quelqu'un, ben là, le procès s'ouvre. Et lui, le procès, lui, il est public. Parce que les gens ont le droit de savoir c'est d'intérêt public. Donc, tout ce que la police a amassé dans son dossier, ils sortiront peut-être pas tout, parce que là, tout n'est pas nécessaire. S'il y a des pistes qui ont été éliminées, qui sont plus bonnes, on n'en parlera pas. Mais tout ce qui a rapport avec le suspect ou l'accusé, dans ce cas-là, ben là, ça va sortir publiquement. Fait que dans le fond, quand tu as un procès, tu as une bonne partie du dossier de police qui sort. Parce que si c'est sûr que c'est un exemple assez... assez faible, mais j'ai fait sortir les dossiers de police de 1920. Puis dans ça, il y avait une lettre sur l'arrestation des parents d'Aurore Gagnon, la fameuse enfant martyr de 1920. Puis
cas très populaire du Québec, entre parenthèses, là, pour voilà. Ceux qui ne savent pas. Là. On a eu quoi là-dessus? Des films?
Oui, des films et des pièces de théâtre au début.
Ah, c'est vrai, hein?
Oui, il y a deux films aussi, un en 1951.
Il avait fait un remaster, je pense, en début 2000, quelque chose
ouais,
comme ça, il
me semble. En 2005, oui. Et puis, il y a eu des livres aussi, dont le mien, parce que dans le mien, j'explique le procès. Puis, quand j'ai eu accès au dossier de police, le rapport, il nous apprend rien. Tu sais, je veux dire, c'est juste un résumé du rapport. Si tu as lu le dossier judiciaire, la lettre, dans le fond, t'apprend rien. Donc, qu'est-ce qu'il y en sera plus tard avec les autres dossiers de police? Je sais pas, mais tu sais, ça reste à découvrir quand même. Puis l'autre aspect aussi qui est important, sur lequel je pense notre balado va se démarquer, c'est sûr que bon, c'est l'authenticité de la documentation, parce qu'on ne se fiera pas sur un documentaire américain ou un article de journal, tout ça. Des fois, on n'a pas le choix de se tourner aussi là, vers les journaux, hein, ça, on va l'expliquer. C'est la différence entre... là, je dis balado, mais il y a des documentaires aussi là qui fonctionnent comme ça. C'est que, premièrement, ils n'ont pas consulté le dossier judiciaire pour la grande majorité. J'ai des expériences personnelles là-dessus. Un réalisateur qui m'a dit face à face que eux autres, ils ne pouvaient pas se permettre d'être objectifs. Je me suis dit, ouais, en partant, ça va pas bien. Mais la différence entre je dis ma méthode, mais c'est pas ma méthode, c'est la méthode judiciaire. C'est que eux, moi j'appelle ça, c'est plus la méthode journalistique. La méthode journalistique, c'est qu'ils ont l'instinct de tout ramasser. Je te donne un exemple. Si, mettons, ils feraient une enquête sur un crime de 1930, ils peuvent consulter le dossier judiciaire s'il y en a un. Ils vont sortir l'enquête de coroner, mais ils vont aussi retracer des descendants, des témoins peut-être encore vivants, des ci, des ça, des articles de journaux, puis ci, puis ça, puis d'autres documents qui ont été faits, puis un livre qui a été écrit là. Fait que ça dilue un peu la vérité. Dans certains groupes, ça l'a dilué beaucoup parce que.
Ben, là, en fait, j'aurais une petite question, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que, en fait, on entend souvent parler de sensationnalisme et la question que je me demande, en fait, c'est est-ce que le fait qu'il ait cherché un peu de l'information de tout et partout, c'est pour créer du sensationnalisme ou ça a comme pas nécessairement de lien?
C'est parce que souvent, ça. Ben, moi, je pense que ça dilue la vérité. De un, et aussi, c'est que tu t'en vas chercher l'opinion. Mettons, tu as un survivant d'un procès, là, qui. Je te donne. C'est complètement fictif ce que je vais te dire, là. Tu sais, mettons que tu as un monsieur de 80 ans qui, dans sa jeunesse, a assisté à un procès puis qui était témoin. Là, tu vas le chercher, tu le retrouves, tu le fais parler du crime, mais c'est sûr, même quelqu'un de très honnête, son souvenir de cette époque-là va s'être modifié avec le temps.
Oui, apparemment, on voit ça souvent, ouais. Qui est à dire, tu sais, des fois, si je te demandais il y a 3 mois qu'est-ce que tu as fait de ta journée, il y a bien des chances que tu t'en rappelles juste pas, mais c'est purement là, humain. Fait que si on recule en plus de quelques années, moi, personnellement, j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai fait hier. Alors, je sais pas pour le reste.
Puis, tu sais, il faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes qui ont certains intérêts aussi. Maître Clément Fortin, quand il a écrit son livre sur l'affaire Coffin en 2007, a fait ressortir le fait que, je te donne un exemple, on en reviendra, parce sûrement que l'affaire Coffin, ça te dit rien. Ça a eu lieu dans les années 50. Et puis, les plus vieux s'en rappellent, puis ils disent qu'il y a eu une erreur judiciaire épouvantable, puis qu'il n'aurait pas dû être pendu. Bref, les témoins ont témoigné. C'est pas original ce que je dis là, mais ils ont témoigné au procès.
On s'est payé là pareil, les témoins qui témoignent, on aime ça.
Ils ont témoigné en 1954, ils ont dit leur version. Et puis, devant les journalistes, ils en ont donné une autre. Parce que là, c'est souvent des gens, puis là je le dis pas de façon négative, c'est des gens qui habitaient des régions éloignées. Puis là, soudainement, il y avait beaucoup d'attention sur eux autres. Tu sais, imagine une mère là, qui fait la popote là, dans le fond de son rang en campagne puis qui n'a jamais vu personne. Puis là, elle sort, puis là, le journaliste, la presse de questions, elle a de l'attention, elle aime peut-être ça aussi. Fait qu'il y en a qui ont donné d'autres versions devant les journalistes. Et puis, quand il y a eu une commission d'enquête quelques années après, parce que ça avait tellement suscité l'intérêt du public, puis le public se demandait tellement s'il y avait eu erreur judiciaire qu'ils ont fait une commission d'enquête pour savoir si c'était vrai. Ben, les témoins sont retournés dans la boîte aux témoins, puis ils ont redonné la version qu'ils avaient donnée au procès. Fait que ça. D'où l'importance de témoigner. Tu sais, un témoignage, quand tu témoignes, il y a un certain décorum, puis tout ça. Ça veut pas dire que tout le monde dit la vérité. On va en voir qu'il y en a qui ont fait des faux témoignages, puis tout ça. Mais. Il y a un certain décorum que, puis en plus, les témoignages sont enregistrés. Fait que si tu te contredis par après, ben là, ta version en cours est enregistrée. Là. Tu sais, c'est fait, c'est bloqué dans. Tu sais, c'est ça. C'est un peu le processus du procès. Puis tu sais, il y en a qui m'ont écrit à travers le temps, puis il y en a qui ont descendu le pouvoir judiciaire, puis qu'il y avait des injustices. Mais souvent, les gens qui étaient dégoûtés de ça, c'était par rapport à des expériences avec le système judiciaire, mais pas au niveau des procès pour meurtre. Parce qu'un procès au civil, par exemple, ou un procès pour viol ou vol, c'est différent un peu. Parce que les procès pour meurtre, normalement, c'est assez bien rodé. Je dis normalement parce que c'est sûr qu'il y a des exceptions. Puis c'est sûr qu'il y a eu des injustices, là, on va en voir. Mais c'est ça, c'est souvent... Tu sais, c'est plus rodé, parce que là, il y a des vies en jeu, souvent, puis c'est quand même des condamnations sérieuses. Puis normalement, c'est souvent le top des avocats aussi qui se retrouvent là. Les meilleurs plaidoyeurs, les plaidoyers, tout ça, ça se retrouve dans les... Fait qu'en gros, c'est ça. Je pense que notre balado va se démarquer par rapport à ça, le true crime, parce que, bon... Tu sais, je pense, je veux pas être plus... Mais moi, j'ai toujours eu cet instinct-là d'aller dans les archives. Puis jusqu'à preuve du contraire, il y a des fois que je faisais ressortir des faits sur mon blog ou peu importe. Puis après ça, il n'y a plus personne pour me contredire. Là, parce que c'était la vérité du dossier judiciaire. Puis en plus, le dossier judiciaire a encore preuve légale. A encore la valeur légale, même après tant d'années. Là. Fait que, c'est ça. Je pense qu'on va avoir du fun. Puis les gens, au moins, on va essayer de les informer le plus possible. Puis on va être ouvert aussi. Je suis en contact avec certaines personnes qui sont dans l'entourage de victimes ou autres, qu'on va peut-être qu'on aura des invités. En tout cas, on va essayer de regarder ça, puis on va rester ouvert aussi aux gens. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont écrit depuis que j'ai mon blog là, en 2010. Donc, sûrement d'autres qui vont nous écrire là, quand on aborde des sujets.
Parce qu'on va... même temps, tu parles de ton blog, mais tant qu'à faire, ouais. Cite ton blog.
Ah! Ouais, mon blog,
c'est... Ou ton site web, tu veux dire, en fait?
Ouais, ben oui, c'est un blog au départ, historiquement logique, qui bon m'a attiré plusieurs journalistes qui m'ont écrit, mais plusieurs personnes aussi pour m'informer, qui en a qui ont gardé de l'anonymat, puis c'est correct comme ça, je respecte ça à 100%, mais beaucoup d'informations qui sont venues comme ça, puis c'est super intéressant, là. Voilà, fait que je pense que, tu sais, mon nom est peut-être pas connu, moins connu que d'autres. J'ai déjà essayé de faire des balados tout seul, mais le moyen qui me revenait le plus, c'était surtout par écrit. J'ai plus l'instinct d'écrire, mais là, à deux, c'est toi qui m'as vraiment piqué au vif. Là, puis quand j'ai su que tu avais une idée là-dessus, ben regarde, j'ai sauté au plafond, parce qu'avec toi, je sais que ça va être super le fun.
Je trouve ça flatteur, merci. Alors, je pense que de ce fait, on va pouvoir présenter nos vies personnelles. Alors, personnelles, grosso modo. Titre informatif, moi puis Eric, on est d'accord sur le fait qu'on ne souhaite pas nécessairement s'étendre sur nos vies personnelles. Tu sais, on aime animer un podcast pour discuter de choses de crime. Moi, à la base, je suis une personne curieuse, alors je trouve ça intéressant. J'écoute beaucoup de podcasts en mode général, puis je me rends compte que souvent les podcasts, plus que les gens s'intéressent aux podcasts, plus que les podcasteurs racontent leur vie, mais des fois, je trouve que, tu sais, entendre 10 minutes de la vie de quelqu'un, c'est long, surtout que, bon, on peut skipper, mais on sait jamais jusqu'à où faut skipper, là, fait que, alors, bref, tout pour dire que nous, de notre côté, on aime aborder les sujets, si on a peut-être une mise à jour à faire, on va la faire au début, mais on aime ça un peu plus short and sweet, donc... vraiment de s'en tenir à l'essentiel. On peut pas dire, on est humain, là, on peut pas dire que ça arrivera pas une fois de temps en temps, mais majoritairement, c'est pas notre objectif. Donc, je te laisserai... en fait, tu veux que je me présente en premier ou...
Non, vas-y, c'est à toi. Okay. Bon.
Alors, pour ma part, moi, c'est Lee, et puis... j'ai quand même un bon background de tout et n'importe quoi. Je suis pas dedans. Donc, j'ai fait des études dans des domaines différents. Actuellement, je m'apprête à terminer un cours au cégep de graphisme. Puis, ça m'apporte quand même beaucoup de portes ouvertes au niveau de la création de contenu en tout genre. Là, c'est sûr que... j'aime créer, donc c'est la raison pour laquelle le podcast est un peu pas mal né de cet aspect-là. Puisque je suis curieuse, j'aime ça tester des logiciels, essayer des choses. Puis, à l'inverse d'Éric, moi, je suis pas une personne qui aime tellement, pas tellement écrire à proprement parler parce que je me démotive assez vite, je trouve ça long. Par contre, ça, parler, ça fait partie de la plupart des travaux de ma vie que j'ai eu. Alors ça, il n'y a pas de problème. Je sais comment ça marche, ça va bien. Alors, c'est plus naturel pour moi de communiquer comme ça. Sinon aussi, j'ai un historique en tant qu'agent de voyage. Écoutez, j'ai pas grand-chose, j'ai pas fait au niveau de ma carrière jusqu'à maintenant, là, même dans le système de santé, j'ai passé un peu partout, restauration, etc. Mais c'est sûr que je suis quelqu'un vraiment de créative, alors le domaine que j'ai actuellement au niveau du graphisme, c'est tellement large, puis ça touche tellement beaucoup de choses que ça me convient beaucoup mieux. Puis je trouve que le balado qu'on est en train de partir et d'animer, va de soi avec justement là, ma créativité puis ma soif d'apprendre et de créer. Alors, c'est un beau défi que je me lance de faire le balado, de le créer. Ça va être moi au départ. En tout cas, je sais pas comment ça va continuer dans notre projet, mais pour l'instant, c'est moi qui ai créé. L'intro et tout, ça part de moi. Donc, je suis ouverte toujours aux recommandations. Si vous avez des choses que vous appréciez ou non, si vous avez des idées, moi je suis très ouverte. Toute idée est toujours bien reçue. Également pour ce qui est de notre podcast, on devrait avoir là, plusieurs plateformes qui vont prendre naissance sous peu. Probablement dans les premiers, ça va être Facebook. Là, on a déjà notre courriel. Là. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, c'est une enquête à la fois à commercial@gmail.com. Voilà, j'ai un petit blanc. Donc, c'est ça. S'il y a des mises à jour à faire, qu'on a d'autres plateformes ou quoi que ce soit, on va pouvoir toujours là, vous les introduire lors d'un de nos balados. Sinon, je pense que ça complète pas mal ce que j'avais l'intention de dire. Donc, je te laisse te présenter. Quelle est ta carrière, mon cher Eric? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. C'est à toi.
Ma carrière, grosso modo, comme je le disais tantôt, j'ai commencé vraiment intensément dans les archives puis l'histoire en général aussi. Mais ce qui est plate à un moment donné dans notre vie, c'est qu'on faut faire des choix. Hein. Puis moi, j'aime ça approfondir. Donc, si je devais approfondir un sujet, j'avais pas le choix d'en abandonner d'autres. T'sais. Fait que bon, il y a tellement de sujets en histoire. Moi, j'avais des sujets comme la Mésopotamie, la préhistoire qui m'intéressaient beaucoup, mais bon, tiens, à un moment donné, j'ai fini par tomber dans le crime. Bon, j'en ai pas commis, mais je les étudie. Fait que, grosso modo, c'est ça, à force de lire des procès, ben oui, ça, on devient comme, tu sais, on rentre en profondeur dans quelque chose, donc c'est sûr qu'il y a d'autres choses, on n'a pas le temps. Comme une prof à l'université m'avait dit déjà aussi, quand tu fais de la recherche puis tout ça, eux autres n'avaient même pas le temps de se lire entre eux autres, entre chercheurs ou spécialistes ou tu sais tout ça. Fait que c'est pour dire, là, tu lis tout le temps la matière brute, comme quand tu as un procès pour saut au cochon, par exemple, de 7000 pages, ben là, dans le fond, c'est trois procès là, qui totalisent 7000 pages, ben c'est sûr que ça demande du temps. Puis il faut pas que tu sois un TDAH parce que tu n'y arriveras pas. Ça demande beaucoup de concentration, d'énergie, puis d'analyse aussi, parce que tu lis pas ça juste comme ça. Des fois, tu y reviens, tu dis « Ah ouais, tel témoin a dit ça, mais non, ça marche plus. » C'était le cas surtout de saut au cochon, parce qu'il y avait des menteurs dans ça, puis c'était quand même, il y a pas mal de rebondissements, c'était super intéressant. Il y en avait aussi.
Pour ceux que ça intéresse, là, pour saut au cochon, toi, tu avais prévu, dans le fond, de faire quelques épisodes concernant ça également, vu que tu avais déjà trois tomes.
Oui, c'est ça, moi, le troisième tome s'en vient en livre, en librairie. Les deux premiers sont déjà disponibles. Ça s'appelle Saut au cochon, tome 1, Le crime du siècle, et tome 2, L'arme du crime. Et le prochain, ben là, je l'ai dit en exclusivité pour le sous-titre du tome 3, parce que je l'avais pas dit encore, mais ça va s'appeler Le témoignage qui tue. Et les gens vont comprendre, parce que Mme Pitt a accepté de témoigner à son propre procès, et elle a été pendue. Fait que c'est le témoignage qui tue. Alors, rien
bien,
de...
alerte spoil! Je sais pas si c'est une bonne chose que t'aies spoilé ton livre, là, mais...
Tout le monde le sait, c'est de notre... Ah, OK! Ouais, Madame Pitt, c'est comme la dernière femme qui était perdue au Canada, donc quand même que j'essaierais de le cacher, c'est plus ce qui est le punch.
Ben, ceux qui sont pas au courant puis qui ont pas voulu le lire avant, c'est bref.
Non, mais le punch, c'est de savoir est-ce qu'elle a été pendue pour les bonnes raisons ou pas.
Ah, OK, bon. Okay, il reste encore une part de mystère, là.
Ouais, voilà. Donc, on y reviendra parce que c'est quand même assez complexe. Si on reste D'accord. en surface, comme on se disait en pré-production, si on reste en surface, on peut quand même se poser des questions, dire peut-être qu'il était pas coupable, ça se pourrait. Mais quand on va en profondeur, je ne vais pas donner de punch encore, mais on risque de changer d'opinion puis d'apprendre des choses que les journalistes n'ont pas eu le temps de tout nous dire à l'époque. Puis je dis, ils n'ont pas eu le temps parce que c'est pas de mauvaise foi. Des fois, ils couvrent des procès, ils passent 8 heures dans la salle d'audience, puis ils ont une petite colonne de 3 paragraphes de lendemain dans le journal. Fait qu'ils n'ont pas le choix de résumer. T'sais. Fait qu'il y a des choses qui passent comme ça. Pour poursuivre après ma carrière, ben j'ai travaillé longtemps en sécurité privée. Mais j'ai toujours eu un livre ou une revue pas loin pour me renseigner sur l'histoire, tout ça. J'ai publié sur l'affaire de Nesterien. On y reviendra aussi. On pourra même faire une balado là-dessus. Sur Aurore l'enfant martyr. Souvent, c'est la même méthode que je prends. Là, c'est le lecteur se met dans la peau d'un des jurés pour prendre sa propre décision, comme s'il assistait au procès. Fait que c'est la manière la plus objective que j'ai trouvée. Puis ça, et sous les conseils de Maître Clément Fortin à l'époque, qui malheureusement est décédé en 2020. Mais c'est triste parce qu'on aurait pu s'arrêter un super bon invité dans nos balados, lui, au palais. c'est ça, j'ai publié aussi sur Blanche Garneau, qui est un des plus célèbres cas non résolus de notre histoire. Et on a beaucoup de leçons à tirer. Je sais que le cas a été boudé par beaucoup là, qui sont dans le non résolu parce qu'inconsciemment, c'est ce que j'ai compris, parce que des fois, faut déduire leurs commentaires, mais... C'est ce que j'ai compris, que le cas est trop ancien. Fait que ça les intéresse pas, c'est trop ancien parce que probablement, on n'aura pas de chance de le résoudre. Mais c'est avec des cas comme ça que tu apprends. Tu sais, c'est une autre affaire que je reproche souvent, ou ça sera pas long, hein, je pense que c'est une question. C'est une autre affaire que je reproche souvent aux documentaires de choses non résolues, c'est qu'ils s'attaquent tout de suite à des choses non résolues, puis ils n'ont pas d'expérience d'une simple enquête ordinaire. Donc, des fois, on va voir que les éléments de preuve, ça n'ont pas toutes la même importance. Je te laisse ça avec ta question.
C'était plus une affirmation, je me retenais. Oui? Je me retenais pas de couper, là. Je riais à l'intérieur de moi, mais tu sais, quand tu as dit, bon, Monsieur Maître Fortin, ça aurait été le fun de l'inviter à notre podcast, puis je me suis dit, c'est vrai que ça serait intéressant. Et là, ben, écoutez, nous, on a une drôle d'humour ensemble, mais j'avais envie de vous le partager. J'ai envie de me dire que si un jour je trouve la ligne de l'au-delà pour l'appeler, je te le dirai.
Peut-être qu'il y a un courriel de l'au-delà aussi.
Tu serais pas pire, hein?
Ouais, c'est ça.
En mode général, ça paraît pas vu qu'on fait une intro, là, mais on est deux personnes assez... Bon, je fais des petites jokes de papa, là, mais on est des personnes très humoristiques. Puis, ouais. Bon, c'est ça, quand nous, on se parle en dehors des lignes du podcast, tu sais, on est très animés, pas trop barrés sur les jokes. On n'est pas vraiment susceptibles non plus.
Non, un jour, on révélera, si notre public est fidèle, on leur révélera peut-être un petit peu le lien qui nous unit, là. Fait que...
Vous inquiétez pas, c'est pas le mariage.
Non. Ça coûte trop cher.
Ah oui, il y a ça aussi, mais... non, c'est ça. Bref, donc, c'était ma petite parenthèse, là.
C'est correct.
Il fallait que je la fasse, là, tu sais bien que...
Mais, mais pour en revenir, sur nos, parce qu'après ça, on va enchaîner vraiment avec un épisode plus précis, là, sur le néonaticide. Mais, tu sais, juste pour finir avec ça, l'importance entre la méthode journalistique qui est prise partout. Tu sais, je dis méthode journalistique, mais c'est la méthode de recherche documentaire en général. Tu sais, ils vont chercher le plus. Eux autres, ils pensent que l'exhaustivité, c'est d'avoir le plus de documents possible. Mais si tu as des articles de revue de 2002 sur un crime de 80, ben, tu sais, c'est plus de la... Voyons, le mot m'échappe, là, mais c'est plus de la priorité primaire. Là, c'est de la priorité secondaire puis tertiaire rendue là. Parce que là, ça a été écrit beaucoup après. Les articles de journaux contemporains qui ont été écrits au moment des faits ont beaucoup plus d'importance. Pas autant que le dossier judiciaire, mais quand même, tu sais. Et bon, c'est sûr que le blabla, tout ce qu'on appelle patrimoine vivant, c'est-à-dire les personnes qui racontent, normalement, je veux pas être méchant, mais c'est moins fiable. Ça peut être fiable sur certaines parties, par exemple sur la victimologie. Quelqu'un qui a connu une victime, ben ça c'est précieux à ce moment-là. Mais tu sais, avoir son opinion sur tel élément de preuve, ben ça, on va laisser ça aux policiers. Là, tu sais, faut donner à César ce qui va à César. Puis tu sais, c'est juste une question de procédure, puis de la comprendre. Ben souvent, il y en a qui vont juger la façon qu'un procès se déroule. Mais quand on lit, quand on l'observe avant de donner son opinion, bien souvent, les choses se placent d'elles-mêmes. Puis on comprend, tu sais, je veux dire, c'est ça, ça va être intéressant, je pense.
Donc, je pense que ça conclut pas mal notre intro.
Mm-hmm.
En tout cas, pour ma part, moi, ça conclut.
Ouais.
Alors, j'espère que ça va vous plaire, que notre podcast va être intéressant.
Ouais.
Vous pouvez continuer de nous suivre et être intrigué sur les choses du Québec. Alors, que vous soyez québécois ou d'ailleurs international, bref, ouais. Ça va vous en apprendre davantage. D'ailleurs, moi, je risque d'en apprendre puis je vis déjà au Québec. Alors, j'imagine que ça risque d'être très intéressant.
Et faites-en pas. Écoute, faut que je le dise aussi. Moi, je suis en continuelle recherche. Parce que je le dis entre parenthèses, on y reviendra, mais je travaille depuis des années sur un dictionnaire des homicides, donc j'essaie de répertorier le plus d'homicides possible au Québec, donc j'en apprends moi aussi, au fur et à mesure. Tu sais, pas plus tard qu'hier, là, j'ai appris un crime dans le qui a eu lieu dans le showbiz, puis là, ça expliquait quelques petites affaires que j'avais entendues quand j'étais plus petit. Ça se passait en 71, là, pour les plus vieux vont savoir qui était Tigus et Timus. Puis sa deuxième femme, ou sa première femme, je crois, a fini par tuer un autre conjoint qu'elle avait eu parce qu'il la maltraitait. Donc, elle a décidé que ça en était assez, surtout quand elle a appris qu'il avait fait des attouchements à sa fille. Et sa fille, qui est devenue la chanteuse connue par la suite sous le nom de Pierre Bellan.
Ah non!
La sœur de Réal Bellan, la demi-sœur de Réal Bellan.
Je pensais que tu allais parler de comment qu'elle s'appelle, là. Voyons, elle avait subi des attouchements, là. C'est.
Hey boy,
elle est blonde. Oui, c'est ça.
Ouais.
Exact. Je pensais que tu allais parler.
Dans ce cas-là, moi, ça me regarde moins parce que là, mes recherches se concentrent sur les homicides. Fait que quand je suis tombé sur cet homicide-là, ben là, j'ai appris un peu autour. Là. Moi, j'avais juste le nom de Armande Cyr Bellan. Mais Armande Cyr, c'est la mère de Pierre Bellan, qui est une chanteuse country. Elle est décédée en 2013, si je ne me trompe pas, à 65 ans, ce qui était quand même encore assez jeune. Mais tu sais, on voit le drame qu'il y a en arrière de cette famille-là. Puis c'est ça, quand elle a appris qu'il avait fait des attouchements sur sa fille, ben elle a simplement pris une carabine, elle est montée chez eux, puis paf. Fait que voilà, elle a réglé son cas, mettons. Puis en plus... Ce qui est intéressant, puis ça, on va le voir aussi, parce que je m'intéresse aussi à la classification des crimes, principalement en raison de... Il y en a qui vont le reconnaître, mais John Edwards Douglas, qui a inspiré la série de Netflix Mindhunter. Moi, j'ai lu son livre qui s'appelait aussi Mindhunter. Ça a sorti en 95, je crois. Puis c'est un des pionniers dans le domaine du profilage au FBI. Donc, eux autres, lui, il s'est associé avec des psychiatres et tout ça pour monter le CCM3. Je vais te le montrer, mais eux autres, nos auditeurs ne le verront pas.
Mais je viens de voir. Remontons, vu que tu l'as...
C'est le Crime Classification Manual, ou le manuel de classification des crimes. Mais eux autres, quand ils parlent de crimes, c'est crimes violents. Moi, je me suis limité aux homicides. Puis je me base principalement là-dessus. Là, tu sais, c'est pas du copier-coller. Parce que je l'adapte un peu, il y a des crimes qui sont pas nécessairement tout à fait pareils au Québec ou tout ça. Mais écoute, ça aide beaucoup à comprendre. On va le voir d'ailleurs avec le néonaticide. Tu sais, il y a un profil de ces mères qui tuent leurs enfants. Puis c'est assez spécial aussi. Là. C'est pas toujours ragoûtant, mais c'est ça, c'est la vérité. Puis donc c'est ça. Il y a un aspect classification aussi à ça. Puis on va voir selon les types de crimes. Pour revenir à celui d'Armande qui avait tué la mère de Pierre Bellan, c'est quand même assez rare au Québec que des femmes vont tuer leur mari, surtout avec une arme à feu, là, quand c'est aussi... c'est pas la majorité, disons. Là. Fait que c'est plus des conjoints, c'est plus des hommes qui vont tuer leur conjointe ou leur ex-conjointe. Mais dans ce cas-là, c'est assez, c'est assez rare. Alors, c'est ça. Toutes des choses qu'on voit comme ça, il y en a tellement. Écoute, je suis rendu... Actuellement, mes recherches là sont pas complétées, je le dis. J'ai au-dessus de 1000, à peu près 1100 dossiers pour 1800 victimes, à peu près 300 affaires non résolues. Alors, puis ça se multiplie, là, à chaque temps libre que j'ai, je continue. Donc, puis tout ça est classifié. Donc, il y a certains types de crimes qu'on est capable de savoir, bon, ben, c'est commis dans tel pourcentage ou pas, là, tu sais. On voit aussi quel type d'arme de crime est le plus utilisé que d'autres, puis... On va en avoir de la matière à choisir, ma chère.
C'est super, c'est pour ça qu'on est là. Alors, on se lance pour le premier balado?
Ouais, yes. Puis, on va dire bonjour à nos auditeurs. Puis, c'est ça, la jeunesse s'associe avec l'expérience, les chéris. Puis, on va espérer d'être...
Je commence à en avoir, là, dis plus des affaires de même.
Ah, attends, ça presse pas, attends.
Donc, ben, merci beaucoup, Eric.
Ben, merci à toi, puis merci de m'avoir lancé cette idée-là. Écoute, je pense qu'on va avoir vraiment du fun, puis ça va se sentir aussi avec ceux qui vont nous suivre ou ceux qui ne nous suivront pas. C'est pas grave.
Ben, écoutez, s'ils ne nous suivent pas, c'est pas plus grave que ça. Il manque tellement des bonnes histoires. Moi, je suis toujours, moi, je suis toujours une bonne mordue d'histoire. Ben, au revoir, tout le monde.
Au revoir.